je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Ya salut bisom, bonjour, on peut dire ici shalom, ici sous la Sina. Je suis très heureux de partager, de vous retrouver les grandes oreilles de la Judaïka sur les ondes du 102.9. Fais-moi une place, Mormira Platzele dans ma langue maternelle, Mutterspror, une émission pour partir à la découverte de l'autre, pour tenter de percer ce mystère. À quoi pense-t-elle? Qui est vraiment cette femme que j'ai invitée? Chacun est là, installé devant cette forêt de micros, suspendu au mois à venir. Parce que j'ai choisi mon invité surprise au féminin, que vous connaissez tous, avec sa voix douce, qui captive, qui porte loin, et qui rapporte aussi de l'audience, et surtout des sourires sur les ondes à l'antenne. On a vraiment besoin de sourires à l'antenne. Salut Isabelle Chalaï, comme je suis content de t'accueillir dans notre studio J.
Bonjour André, moi aussi je suis ravie, merci de ton invitation.
Bah écoute, je t'en prie, en tout cas on va découvrir qui est cette célèbre animatrice de la radio voisine, France Bleu, ou alors on dit quoi aujourd'hui?
Alors c'était France Bleu Alsace, et puis maintenant depuis un peu plus d'un an, c'est ici Alsace.
Et toi tu es dans le matin quoi?
Je suis le matin, le 9h-11h.
Oui, on dira tout ça tout à l'heure.
Tout à fait.
Tu animes depuis belle lurette des émissions culinaires en ce moment, je crois, hein, depuis très longtemps.
Oui,
hein,
ça fait presque une quinzaine d'années, ouais. Alors ça change toujours un petit peu à chaque saison, mais on reste toujours un peu dans la gastronomie. Ouais.
Mais avant de parler de cette belle carrière radiophonique, parle-moi de ton dedans de toi. Tu es alsacienne? C'est quoi ton terrain de jeu? Tu as grandi où, dis-moi tout?
Alors moi j'ai grandi à la Vanzenau, qui est à une petite quinzaine de kilomètres de Strasbourg. Je dis très souvent que ce village, il est cher à mon cœur parce que ça a été de très belles années. J'ai eu une très jolie enfance.
Et heureuse?
Ouais, très heureuse.
Paradisiaque?
Alors, je ne sais pas si elle était paradisiaque, en tout cas elle était heureuse. Et j'ai beaucoup aimé vivre dans ce village parce qu'à l'époque, je te parle d'il y a 50 ans, c'était un village, voilà, la Vanzenau, où j'étais avec mes parents, mon frère.
Avec des enclos, des vaches, des pêcheurs?
Mais oui, il y avait des vaches, il y avait des pêcheurs, on allait chercher le lait à la ferme avec
non.
ma maman. Si,
ah
si,
ouais.
bien sûr, c'était la joie, ouais.
Là-bas, tu te souviens, on y mangeait de la friture avec de la mayonnaise au bord de l'île.
Évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, le restaurant, toujours au bord de l'île, qui existe toujours, a été l'un des restaurants où on a mangé très régulièrement avec mes parents.
Là où il y a M. Daul, je crois.
Exactement,
la famille Daul est là-bas.
Toute la famille Daul.
Ouais.
M. Daul a rencontré mes parents, m'a découvert toute petite.
Ben, c'est chouette. Alors parle-moi de la Vanzenau. Tu étais plutôt bonne élève à l'école? Tu étais plutôt une rêveuse ou à l'école primaire?
Alors, j'étais pas très bonne élève, pas parce que j'avais pas les capacités, mais tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas. J'étais déjà assez rêveuse, c'est vrai. J'avais déjà très, très envie. J'avais une grande capacité à imaginer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, je posais des questions tout le temps. En fin de compte, je passais...
À l'instit?
À tout le monde.
Ah ben, ça devait l'énerver, non?
Donc, ça l'énervait énormément. Et donc, j'avais pas... Voilà, je peux pas dire que... voilà, l'école a été véritablement un moment génial dans ma vie. Mais bon, fallait y aller, hein.
Ouais, c'est vrai,
il fallait y aller, on n'avait pas le choix.
Là, on s'ennuyait souvent à l'école.
Ouais. Moi, je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée. Et surtout, je me suis très vite rendue compte que ça n'allait pas du tout être, en tout cas par ce biais, que j'allais pouvoir faire ma vie.
Grandir avec l'école. Parce que c'est vrai que l'école, on y apprend des choses, mais la vie extérieure est encore plus riche.
Voilà, moi j'ai appris, tout ce que j'ai appris, en tout cas, je l'ai appris dans ma vie de tous les jours, avec les parents, puis ensuite avec les rencontres. J'ai rien, pas grand-chose appris sur les bancs de l'école.
Et alors, dis-moi un petit peu ton terrain de jeu, c'était quoi? Tu jouais à la poupée?
Non.
Tu jouais à Barbie? Tu jouais à Thierry Lafronde?
Alors en fin de compte, je jouais à la poupée, mais j'étais très garçon manqué. Ma maman, qui était ravie d'avoir une petite fille, me mettait des super robes hyper blanches, super mignonnes, avec les petits flots dans les cheveux, parce que j'avais des anglaises. Et moi, je partais, j'allais jouer avec les copains de la Vanzenau, il y avait quasiment que des garçons. Ils montaient aux arbres, je montais aux arbres. Ils sautaient dans une flaque, je sautais dans une flaque. Donc après, je revenais dans un sale état. Et moi, j'étais vraiment... j'adorais ça. J'adorais le côté un petit peu... j'étais tout le temps en mouvement, en fin de compte. Je crois que je fatiguais un peu tout le monde.
Ah oui, c'est ça. Et ta maman comment, qu'est-ce qu'elle disait quand ta robe plissée était un peu sale?
Alors, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'est dit, ok, je crois que ma fille, c'est pas la peine, les petites robes plissées. Donc après, elle m'a foutu des salopettes et c'était fini.
on va juste écouter une petite musiquette, oui, qui est chère à ton papa. Comme ça, on parlera un peu de papa, non, oui, un peu plus tard. Vas-y voir, mets-nous voir la petite musiquette numéro 2, cher Thomas.
Que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson.
Tu la connais par cœur, hein, tu la fredonnes.
J'ai tout mon enfance qui remonte. Ouais. Et vraiment, je suis très émue.
Ça se voit, c'est ton papa qui te l'a chanté, cette chanson.
Il me l'a chanté, on l'écoutait ensemble. Mon papa était très mélomane. Et on écoutait beaucoup d'Yves Montand, de Piaf, de Brel. Et cette chanson, elle était assez souvent en boucle. Et quand elle n'était pas sur le vinyle, c'était mon père qui l'a chantée.
Qui l'a chantée.
Et il avait une voix très, très belle.
C'était un chanteur d'opéra, ton papa,
je crois. C'était un chanteur d'opéra. Ça aurait été sa vie. Il aurait voulu être un artiste, comme on dit dans la chanson. Voilà, malheureusement, il n'est pas né au bon siècle, je crois. Ouais. Mais il a été, il était vraiment très mélomane. Il chantait très très bien. C'était vraiment son truc. Donc, moi, j'ai tout de suite baigné toute petite.
Dans la musique.
Ouais, dans la musique. Ouais.
Et cette musique, Yves Montand, les feuilles mortes,
ouais,
cette saison là.
C'est vrai.
Quand on voit le parc à côté, le
c'est
parc
vrai,
des Comtades.
Ouais, tout à fait.
Quand les feuilles virevoltent, la tombe par terre.
Et pourtant, c'est vraiment une période que j'aime pas du tout.
Ah bon? Ah si, moi j'aime bien cette saison un petit peu avec le vent, tout ça. Alors, on peut dire que c'est un peu ta Madeleine de Proust,
oui,
cette chanson.
Ah ouais, complètement. Ouais, vraiment, vraiment. Merci en tout cas de l'avoir diffusée.
Je t'en prie, ça m'a fait plaisir de te voir fredonner devant ces micros. Alors, je me souviens aussi de ta maman, puisque ta maman, je l'avais rencontrée en reportage. Elle était cartemancière.
Ah,
elle
pas
était...
du tout.
Alors,
oh là là, si.
Raconte-moi, pardon,
excuse-moi. Tu lui avais dit ça?
Non, mais elle lisait La Bonne Aventure, je
non,
crois.
Non, non plus. Elle était astrologue, psychologue.
Astrologue,
et elle avait
fait
des études.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle avait fait des études d'astrologie.
Bien sûr.
Elle ne lisait pas du tout les cartes.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Je me suis un peu égarée, mais je sais que je suis allée avec Gilles Chavanel à l'époque en tournage.
Oui.
À la fin d'un mois de décembre pour parler de l'année d'après.
Exactement.
Et je crois qu'elle nous avait dit que, on parlait de politique et tout, elle nous avait dit qu'effectivement Mitterrand viendrait au pouvoir. Elle s'était vraiment pas trompée.
Ah, absolument.
Et c'est pour ça que je me souviens de ta maman. Et moi aussi, elle m'avait dit des petites choses en aparté. Et puis, j'étais très touchée par,
ouais,
par son
discours.
Elle avait
un métier très atypique. Hein,
ouais,
et
ça.
Ma maman, qui était une toute petite bonne femme de 1m48, quand elle rentrait dans une pièce, plus personne ne parlait.
Ben
elle
oui,
avait
j'imagine.
Un regard incroyable. Ah, ouais. C'était pas facile d'être sa fille, mais elle était extraordinaire.
Avec les gens, ouais, quand elle
côtoyait. Était incroyable, incroyable.
Ouais. Moi, je me souviens, elle me disait des choses, je n'ai jamais oublié que j'allais beaucoup voyager dans ma carrière professionnelle, moi qui travaillais à l'époque à France 3 Alsace.
Complètement.
J'avais jamais pensé que je quitterais la place Bordeaux,
comme
des
quoi.
Choses comme ça.
Et elle donc, était très forte ouais, dans son métier.
C'était ta maman, et en fait, tu connais Gilles Chavanel, je crois.
Alors, Gilles Chavanel, ça a été mon papa de télévision, puisque j'ai eu le bonheur de faire 2 ans de télé, dont une année de météo, j'étais Miss Météo.
Oui, je me souviens, ouais.
Avec Gilles Chavanel, et donc Gilles m'a vraiment pris sous son aile, et je parle de lui avec beaucoup, beaucoup d'émotion, parce que ça a été mon mentor, mon papa de télé, et ça a été surtout quelqu'un vers qui j'allais régulièrement quand j'ai arrêté la télé, que j'ai commencé un petit peu à voir ce qui se passait au niveau des radios. Et à chaque fois, je lui posais des questions, je lui demandais ce qu'il en pensait. Il avait toujours un mot, toujours... c'est quelqu'un que j'aime, et je continue à dire que j'aime beaucoup, je ne veux absolument pas croire qu'il n'est plus avec
ouais,
moi.
Oui, c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup travaillé avec lui, ouais. c'était quelqu'un qui était très à l'aise en direct sur les plateaux.
C'était il était très drôle, il avait un humour très corrosif.
Absolument.
On s'aimait beaucoup.
Il avait trois mots-clés comme ça pour balancer un plateau à l'extérieur. Il était très, très fort. C'est vrai que j'ai eu aussi une grande pensée pour Gilles Chavanel. J'espère qu'il va bien dans les étoiles.
J'en suis sûr.
Il est aujourd'hui. Et alors, dis-moi, après de cette télévision, tu en parles un petit peu. Est-ce que tu en parles avec regret, ce que tu as fait?
Non, pas du tout.
Tu n'avais pas envie de faire de la télé?
Non, pas du tout. En fin de compte, la télé, ça m'est un peu tombé dessus, on va dire comme ça. J'ai fait cette année de Miss Météo, c'était très sympa. Après, j'ai fait une année où j'allais un petit peu à droite, à gauche avec un caméraman. C'était très sympa aussi, mais très rapidement, je me suis dit, la télé, c'est quelque chose de très figé. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses derrière, dès qu'on devait se déplacer, les caméras, les lumières. Oh, je me suis dit, disons, c'est pas très, très instantané tout ça. Et moi, comme je suis quelqu'un qui est très spontané, d'attendre des heures et des heures avant de tourner quelque chose. Enfin voilà, c'était un petit peu difficile. Et quand j'ai découvert la radio,
À ce moment-là que tu as glissé vers d'autres ondes, la radio. Et la radio, c'est quoi pour toi la radio? Raconte-moi un peu ta radio.
J'ai découvert la radio et je me suis dit, mais ce média est absolument fabuleux. Déjà, il y a les voix. Je trouve que moi, j'avais des animateurs comme ça que j'aimais beaucoup, que j'écoutais. Et je me suis toujours dit, il ne faut jamais aller les voir. Il ne faut jamais aller les découvrir. Parce que souvent, ils n'ont pas le physique qu'ils vont avec la voix.
Ouais, mais tu as une voix de radio, toi. Tu as une voix qui est posée, qui est là. Tu as une belle voix. L'a déjà dit,
oui,
bien sûr.
Oui, mais elle est posée parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans de carrière. Je n'avais pas cette voix-là au départ. Il a fallu que j'apprenne. Il a fallu que je travaille beaucoup ma voix. Mais j'avais déjà un petit fond, on va dire. C'est vrai. Et la radio, c'est un univers, c'est mon univers. C'est
un mystérieux un peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est mystérieux? On voit pas qui est derrière le micro.
Mystérieux pour les gens qui nous écoutent.
Qui nous écoutent, oui, c'est
ça. Et quand il y a des auditeurs qui viennent à la radio pour récupérer un cadeau que je les vois, je les fais rentrer dans le studio. Et pendant un disque, par exemple, et là, ils ouvrent des grands les yeux, ils se disent « Ah ouais, mais c'est comme ça !» Et moi, je me dis « Mais quelle chance j'ai de travailler dans un endroit où les gens, ils viennent, ils se disent « Waouh, c'est magique
!» Oui,
parce que
magique.
Ça a un petit côté magique.
C'est comme la télé, la radio, c'est magique.
C'est un petit côté magique.
Alors, tu n'as pas fait toute ta carrière à Strasbourg, ni à la France. Tu étais avant à Paris, je crois. Hein.
Alors voilà, j'ai débuté, en fin de compte, à la radio, on va dire, une vraie radio, à Radio France, à l'époque, à Melun. Alors, Melun, je ne savais même pas où c'était situé. Quand on m'a dit, c'est à une heure de Paris, ok. Et je suis allée donc faire mes deux premières années à Melun, où j'ai appris mon métier. C'est-à-dire, j'ai fait toutes les tranches horaires. Mais toutes, le matin, l'après-midi, le midi, le soir, le week-end. Je faisais des micro-trottoirs.
Ah oui,
c'est horrible.
T'allais voir les gens.
J'allais vers les gens, mais c'est un très très bon exercice. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours détesté et que je n'aime toujours pas. Et j'ai appris mon métier pendant 2 ans à Melun, jusqu'à ce que je décide de revenir dans ma belle ville de Strasbourg.
Et ça a été facile de revenir de Paris? Ils n'avaient pas envie de te garder là-bas?
Alors oui, ils auraient bien voulu me garder. Est-ce que ça a été facile? Non. J'étais enceinte de mon fils et j'étais enceinte de mon fils de 3 mois et quand j'ai postulé, et Dominique Anthony qui était le directeur à l'époque France Alsace,
puisque
ça s'appelait France Alsace, il m'a embauchée quand même. Il m'a dit allez, ok, d'accord. Et donc il m'a fait confiance.
Parce que t'as eu des congés de maternité.
Bah oui, forcément.
Après t'es resté un peu à la maison avec ton garçon.
Voilà, quelques mois et puis ensuite ma vie d'animatrice vraiment à Strasbourg a commencé sous la houlette de Gilles Beaujean. Gilles a été mon deuxième mentor, on peut dire. Ça a été lui qui m'a vraiment appris à faire de la radio. C'était mon directeur des programmes. Il est toujours mon ami. Il fait toujours des formations pour Radio France. C'est un homme absolument incroyable et qui m'a tout appris. Et ce placement de voix, c'est vraiment lui qui m'a appris.
C'est lui qui t'a appris.
Il m'a tout appris.
D'accord. Et alors, tu as aussi fait de la matinale. T'as travaillé l'après-midi, le soir, la nuit aussi, on travaillait
Non. Moi, j'ai jamais travaillé de nuit. On a toujours travaillé que jusqu'à 19h, la plupart du temps. Surtout comme nous sommes des locales, il y a 44 locales qui sont liées à France Bleu, qui aujourd'hui s'appelle Ici. Et donc dans chaque local, généralement 19h, voire 20h, on fait un raccro, comme on dit, un raccro sur Paris.
C'est Paris qui reprend le
relais
après, avec d'autres émissions.
Mais j'aurais adoré faire une émission de nuit.
Bien sûr, est-ce qu'on est libre de choisir les musiques qu'on veut pendant les émissions ou c'est Paris qui impose la musique,
playlist? Pendant très longtemps, on était, entre guillemets, assez libre, effectivement. Et puis aujourd'hui, on l'est plus du tout. C'est une musique qui est unifiée, donc dans toutes les locales, les 44 locales. C'est pas simple. Moi, je trouve que c'est pas simple, mais voilà. Après, j'aime, moi, la musique qui passe à Ici Alsace, parce que j'aime la chanson française, j'aime la variété, je suis, voilà, je suis comme ça, et donc, ça me dérange pas.
Mais ici, en fait, à Radio G, ouais. On est libre, on peut choisir les musiques qu'on veut.
Ah, c'est génial.
Et là, je vais te une musique que tu vas aimer. Mets-nous voir la musique. On va pas te dire, c'est une surprise.
D'accord, ok, j'adore les surprises.
Tu connais Goldman.
Toutes ses chansons.
Toute la discographie.
Par cœur. Wow. Depuis le début de sa carrière. Ça a été mon premier concert.
Grand amour.
Mon premier grand amour. Non mais moi, c'est mon dieu, quoi. Enfin, c'est Jean-Jacques Goldman, quoi. Ouais. Voilà, c'est un faiseur de tubes. C'est un homme fantastique, fabuleux. Et ça a été mon premier concert. J'avais 14, 15 ans.
Ici au Rénu, non.
Ici. Ici, mais au Palais de la Musique,
bah, et des congrès. J'étais en même temps que toi,
exactement.
Je pense.
Mon frère m'avait accompagné parce que lui, il avait le permis. Et à la fin du spectacle, j'étais en larmes et je voulais le voir et je l'ai vu. C'est-à-dire que j'ai attendu toute seule et ils étaient en train de ranger les câbles et tout. Et à un moment donné, il y a une dame qui est venue qui m'a dit « faut y aller ». Et j'étais avec mon frère qui me disait « Isa, faut y aller ». Je dis « je veux voir Jean-Jacques Goldman ». Et il est venu, il s'est accroupi.
Waouh.
Et il n'était pas encore la star qu'il est devenu
qu'il est
après.
Ouais.
Ouais, après, il faisait des zéniths et c'était...
C'est quelqu'un de très simple.
Ouais, mais il l'est encore aujourd'hui. Hein, et il l'a été tout au long de sa carrière. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément. J'aime sa musique. Avec mon compagnon, on l'aime aussi beaucoup. Donc, on l'écoute beaucoup, beaucoup en voiture quand on part en vacances à fond, Jean-Jacques Goldman.
Moi, j'ai un petit souvenir avec lui. Quand, au même moment du concert, là où tu étais, où moi j'étais aussi au Palais des Congrès, j'avais couru avec lui pour faire une interview avec la caméra sur le dos, couru à côté de lui pour lui arracher quelques mots.
Ouais.
Et à la fin, il m'a dit, mais t'es complètement fou de faire ça avec une caméra aussi lourde. Mais bon, on avait une belle interview après.
Absolument.
Interview. Et pourquoi tu aimes la chanson française? Pour quelle raison tu aimes?
J'aime les mots.
Ouais.
J'aime les mots et j'aime ce que disent les chansons. Alors peut-être aussi parce que comme je suis une quiche en anglais, en allemand, enfin dans toutes les autres langues, forcément du coup je me dis, bon bah le français au moins, mais j'aime les mots et j'aime effectivement les chansons qui racontent quelque chose. Et c'est le cas pour un Jean-Jacques Goldman, mais comme un Francis Cabrel, comme un Nougaro, ou encore maintenant aujourd'hui un Vianney, j'adore Vianney,
là,
je suis fan de Vianney, de Calogero. Voilà, c'est vraiment des artistes fabuleux.
Mais c'est comme un peu toi, tes mots qui voyagent, ouais. qui voyagent pour venir au creux de l'oreille de tes gens qui t'écoutent tous les jours.
C'est
un peu la même chose, ce sont les mêmes mots que tu utilises.
C'est vrai, c'est vrai. J'avais eu un jour, ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Il y avait une petite dame qui avait, je ne sais pas, 80, 95 ans et 90 ans peut-être. Et elle nous écoutait et un jour elle appelle et elle n'avait jamais osé appeler. Et elle appelle et on papote et elle me dit « Vous êtes mon rayon de soleil.
Wow.
Je suis toute seule. » Tous les jours,
ah ouais.
je me lève, j'ouvre la radio et qui j'entends ? J'entends Isabelle. Eh bien, vous mettez à chaque fois du bonheur dans mon cœur. Et ça m'a... je me suis dit, mais quel pouvoir !
C'est le
quel
plus beau
pouvoir !
Le plus beau des compliments,
ouais.
quoi.
Ouais.
C'est
plus beau,
beau
des compliments
ah,
et
ouais.
puis de pouvoir, justement, grâce à la radio et grâce à la voix, eh bien, dégager tout ça, c'est top.
Mais ce que tu me racontes, ça m'interpelle, ça me pose, cette question, j'ai envie de te la poser.
Ouais.
Tu as rencontré tellement de gens différents. La radio, c'est un livre ouvert.
Ah ouais, mais tous les jours. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer des vedettes, effectivement, mais aussi des gens de tous les jours. Hein. Et tous les jours, quand moi, j'ai un intervenant chaque jour, chaque jour, c'est des rencontres. Chaque jour, j'apprends encore autre chose. Chaque jour, j'ai d'autres conversations et ça enrichit.
C'est une richesse.
C'est incroyable. J'ai tellement de chance de faire ce métier.
C'est plus riche que ce que tu as appris à l'école.
Oh, voilà, oui. Excusez-moi les profs, mais ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai vraiment tout appris grâce
dans
à ce métier.
Vie, ouais. Et alors, tu ne fais pas que des émissions dans le studio, tu vas aussi à l'extérieur de temps en temps.
Complètement.
Hein, quand vous avez des émissions spéciales un peu.
C'est ça, on a des émissions spéciales. J'ai de la chance aussi de pouvoir faire moi aussi des animations à côté, où je représente la radio, comme EGAST par exemple, le grand salon de la gastronomie.
Que tu animes,
tout à fait. Et vraiment, alors ça c'est assez sympa parce que là, du coup, les gens vous voient et ils sont là, ils sont contents de te voir et ça, c'est encore un autre délire.
C'est voilà. des gens qui t'écoutent. À la radio, les gaz, c'est la cuisine,
c'est tout
ce qui est culinaire, le monde de la gastronomie.
Mais même sur d'autres événements, les gens sont, mais pas que moi, mais mes autres collègues aussi, ils sont tellement heureux de nous voir. Et...
Tu es tout le temps dehors, il neige, il pleut, il vente, vous sortez. Quoi.
De moins en moins, peut-être parce que je vieillis, peut-être.
Ouais, ça se voit pas, hein, franchement.
Mais on sort un peu moins et on fait un peu moins ce qu'on appelle des extérieurs, mais on en a fait beaucoup, beaucoup. On a fait un truc qui était génial, on a fait les 30 ans de la radio, c'était il y a plusieurs années maintenant, et on avait pris un bus, un ancien bus, tu sais, les anciens bus.
Ça me parle,
Le bus avait fait toute l'Alsace, et on s'était arrêté dans plusieurs villes pour faire des émissions.
Ouais,
c'était fabuleux.
C'est des moments exceptionnels,
exceptionnel.
Dans une carrière professionnelle,
incroyable.
Ça s'oublie pas.
J'ai adoré.
Alors, en fait, tu me parles à l'instant de EGAST, de tous ces chefs que tu rencontres. Comment ça se passe le matin ? Ils te donnent des recettes ? Ils viennent en toque blanche ? Ils sont comment ?
Plus maintenant. C'est vrai que ça a été pendant très longtemps. Ils venaient très souvent, d'ailleurs, avec, effectivement, leur veste de cuisine, hein, très apprêtée, parce qu'on faisait des photos quand les réseaux sociaux ont commencé un petit peu à bouger et notre site internet. Donc, ils venaient et on parlait de cuisine. Alors, c'était des recettes. Il y avait des recettes aussi des auditeurs. Mais c'était surtout des bons plans, des astuces, et puis nous raconter, et moi c'est ça que je voulais entendre, leur histoire. Souvent, derrière un grand chef, ou même un chef, quoi qu'il en soit, il se cache toujours une histoire, souvent des histoires de famille, souvent des histoires d'amour, et ça, j'adore ça. Donc moi, j'écoutais leurs histoires, et je faisais des portraits, en fin de compte, de leur vie, derrière un fourneau, par exemple, ou un sommelier avec...
Ce qu'on fait aujourd'hui dans le studio, mais il n'y a pas de piano, quoi.
Exactement, c'est exactement ça, j'adore.
Alors dis-moi, les chefs sont bavards ? Est-ce qu'ils sont timides ? Ils sont bavards ? Ils sont comment ?
Alors, au départ, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à faire, à intervenir avec des chefs, c'était très compliqué de les faire sortir de leur cuisine. Parce que j'avais la plupart du temps, ils me disaient, non, mais attends Isabelle... Moi, je sais cuisiner, par contre, moi, je ne sais pas parler derrière un micro, c'est pas mon métier. Et j'entendais évidemment ce qu'il me disait, je pouvais le comprendre. Et puis, il y a eu les réseaux sociaux, et puis, il y a eu les émissions de télévision autour de la cuisine. Et donc, ils s'y ont mis un peu. Mais ils sont plutôt pas très bavards, au départ. Et puis après, quand ils se sentent à l'aise, ils se lâchent. J'en ai quelques-uns qui ont été très longtemps avec moi et qui ont été des super intervenants.
Ça sent derrière ce micro, t'es une femme comblée, t'es une femme heureuse.
Ouais.
Et je veux dire le mot Isa avec trois petits points belles.
C'est mignon, merci. Oui, j'ai beaucoup de chance. Chaque jour, vraiment, je suis remplie de gratitude. Et chaque jour, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai de la chance de faire ce métier fabuleux, d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir des gens qui m'aiment et que j'aime, vraiment.
Ouais, c'est bon. On parlait juste à l'instant d'une histoire d'amour. On va écouter une très belle musique, la numéro 4. Vas-y voir, mon ami Thomas. Tu vas voir, tu vas être comblé.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
J'aurais voulu être Lady Gaga.
Ah ouais, et moi le Bradley, comment il s'appelait,
Bradley Cooper.
Cooper, ouais.
Lady Gaga, vraiment, j'aurais voulu en fin de compte être une chanteuse. Je chante plutôt pas trop mal, et j'aurais voulu être une chanteuse, vraiment. S'il y avait eu la Star Academy quand j'avais 17 ans, j'y serais allée tout de suite.
Ouais, t'aurais eu toutes tes chances.
Je sais en tout cas j'y serais allée, je trouve ça incroyable. J'adore.
Ouais, j'aime aussi cette chanson, je trouve qu'elle est très très sympa. Là, en fait, on est sous la synagogue, notre studio est là.
Complètement.
Et alors, tu as une double culture, tu as une culture juive, tu es...
Complètement, une culture juive de la part de ma
maman.
Ma maman, ma grand-mère, tout du côté de ma maman, qui était qui est venue de Roumanie, qui est née à Timișoara, et donc qui était juive. Et puis, elle avait épousé un goy, un non-juif, un protestant, mon papa. Et donc, j'ai eu cette double culture. Surtout que mon papa était très très religieux, en fin de compte, enfin, c'était très important la religion pour lui. Il était prédicateur laïque, enfin voilà, donc j'avais ces deux opposés qui étaient assez, assez curieux, et je faisais pas mal de choses avec ma grand-mère. On faisait les fêtes, on faisait Pessard.
Là, on en vient, il y avait plein de fêtes au mois d'octobre, ça n'a pas arrêté.
Ça a été un tunnel de fêtes, vous.
Soukot,
tu veux dire.
Soukot, Anouchka, c'est pour bientôt.
Ouais,
Anouchka,
bientôt,
c'est Noël.
Hanouka, c'est bientôt, mais c'était Rosh Hashanah, et puis il y a eu Kippour, bien entendu. Voilà, ça a été très important.
Alors, je crois que tu t'es amourée avec un ami juif.
je me suis amourachée, effectivement. Mon compagnon est juif. Lui, ça lui parle beaucoup. Et il m'a beaucoup appris, en fin de compte. Il m'a beaucoup remis, on va dire, sur les rails
de la religion.
De la religion, mais sans être religieuse. Ce que je veux dire, c'est que moi, être juif, pour moi, c'est... je suis très fière de l'être. Et pour moi, ça veut dire une identité. Et
la transmission.
La transmission, bien sûr, à mon fils, par exemple. Et puis une identité, cette identité, elle est là, elle est collée à mon cœur.
On est presque à 28 minutes, tu es très bavarde.
Déjà,
j'adore bavarder avec toi. Quelle chance de t'avoir eu chez nous,
merci.
La Radio Judaïka.
Merci infiniment.
C'est vraiment un bonheur, j'espère que tu reviendras bientôt.
Avec grand plaisir, si tu m'invites, je reviens.
Ah ben, je te ferai un gros bisou, merci beaucoup d'être venu chez nous.
Merci André, merci.
À bientôt.
Gros bisous.
Voilà. On a tant ressassé les mêmes théories, on a tellement tiré chacun de notre côté, que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée, ne laisse pas trop.